France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Christian Bobin.
Elsa Boublil.
C'est devenir un objet que d'être quelqu'un pour tout le monde.
Jean Grosjean. C'est sur cet extrait de la prédication aux oiseaux de Saint-François d'Assise de Franz Liszt et interprété par Chani Di Luca que nous vous accueillons Christian Bobin, poète, écrivain de nombreux ouvrages depuis un peu plus de 40 ans, dont le dernier Pierre, est un essai consacré au peintre Pierre Soulages qui célébrera bientôt ses 100 ans. Un manuel, je dirais, de contours, de connaissance et de reconnaissance de l'œuvre de Soulages, mais à travers sa voix silencieuse ou imaginée, son amitié, son humanité, sa stature, une déclaration d'admiration pour l'homme qu'il est, et vous nous emmenez le voir avec vous dans votre train, puis le taxi, une belle aventure que vous partagez avec vos lecteurs qui nous donne envie, sitôt le livre refermé, d'aller nous plonger dans un tableau de Pierre Soulages. Bonjour Christian Bobin.
Bonjour.
Cette phrase de Jean Grosjean, qui lui-même est bien présent dans Pierre, c'est devenir un objet que d'être quelqu'un pour tout le monde, évidemment, nous fait penser à cette déclaration d'admiration à Pierre Soulages.
C'est une phrase guerrière qui laisse entendre que la gloire est un écran qui empêche de voir un homme ou une femme. La rumeur que fait le monde autour de quelqu'un, votre émission commence, le générique commence par les applaudissements. La rumeur que l'on fait autour de quelqu'un empêche de bien l'entendre peut-être. Et ce que j'ai essayé de faire, essayer donc on peut échouer, c'était de percer la brume de trop facile connaissance autour de cet homme, d'aller le chercher comme on va chercher un animal fabuleux dans son terrier, un animal de légende ou une divinité ou quelque chose entre les deux. Aller le chercher parce que vous pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne le connaissez pas hors du monde. Le monde fait un écran, les conventions font un écran, les mensonges ordinaires qui nous servent d'échappée jour après jour nous empêchent de connaître les personnes. Et j'ai, par sentiment profond de cet homme, sentiment profondément humain de cet homme, j'ai voulu qu'un livre traverse toutes ces épaisseurs.
Oui, il y a une phrase qui me vient quand je vous écoute, c'est le moment où vous prenez le taxi et le taxi vous dit « Ah, vous allez voir le peintre !» Et là, ça casse un peu. Ce monde dans lequel il est et dans lequel nous l'imaginons en le ramenant à sa fonction, à cette fonction.
Oui, c'est une parole très simple.
Oui.
C'est une parole très simple.
Oui. Je voulais vous offrir cette prédication aux oiseaux de Saint-François d'Assise pour commencer cette émission, Christian Bobin, parce que vous êtes également l'auteur du Trébat, une méditation livre sur Saint-François d'Assise qui a reçu le prix des deux magots et qui a connu un succès exemplaire et international. Il y a ce rapport à la nature aussi très présent dans votre œuvre, comme si la nature était une musique.
Elle l'est. Le morceau que vous nous avez offert en entrée de cette émission, c'est remarquable parce que d'abord je trouve qu'il est très bien joué. Ce que j'appelle être bien joué, c'est surprendre, c'est nous amener ailleurs que dans l'ennui même poli, même très poli d'un récital, c'est nous surprendre, c'est réveiller quelque chose de la vie, du vivant, c'est équivalent au passage de la brise dans un feuillage, quelque chose qui se passerait dans nos nerfs en écoutant une musique et en écoutant un interprète, ça serait l'équivalent de l'imprévu d'une brise dans un feuillage, ce qui se passe nerveusement pour nous à ce moment-là. Moi j'ai écouté, si vous me permettez, juste un commentaire sur cette... parce que c'est un cadeau que vous me faites, cette musique première. Eh bien, c'est drôle parce que j'avais l'impression de voir une main, et dans la paume de cette main, il y avait des petits cailloux colorés qui gigotaient les uns contre les autres. Je sais que c'est une prédication pour les oiseaux, je sais que cette musique est un peu dans, non pas dans l'imitation, mais dans au service des chants grégoriens des oiseaux, mais j'ai entendu charnellement une main de lumière, une main qui trempait dans l'eau, dans une eau de lumière, et qui jouait avec quelques cailloux. C'est ça la musique.
Christian Bobin, vous êtes l'invité de Musique et moi ce matin et on va avoir le plaisir de vous entendre parler de la musique jusqu'à midi et demi sur France Musique.
Thank you.
Emmanuel Krivine dirige l'Orchestre National de Lyon dans Forlane du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Alors, le tombeau de Couperin, Ravel le disait lui-même, hein, l'hommage s'adresse moins à Couperin lui-même qu'à la musique française du XVIIIe siècle. En fait, ce sont des suites de danses. Ravel rend hommage à des compositeurs comme Couperin ou Rameau, mais c'est surtout ces danses écrites pour le clavecin qui sont des premiers souvenirs d'enfance, je crois, Christian Bobin.
Oui, de préadolescence, on va dire 12-13 ans. C'est étrange parce que cette musique, peut-être est-ce le mot tombeau qui me fascinait à l'époque, je crois plus exactement c'est l'imprégnation de la mélancolie dans le cœur de Ravel, ce cœur en forme de labyrinthe. Pour le dire très vite, si vous me permettez, je développerai un tout petit peu après, je passe mon temps à lutter contre la mélancolie parce que je sais que c'est une fausse amie, c'est une fausse compagne. Elle vous amène au désert et elle vous y laisse, avec des airs très doux, très doucereux. Et la mélancolie, je sais que c'est le pain ordinaire de Maurice Ravel, et ça me bouleverse, ça me touche beaucoup. Ça s'appelle des danses, ce sont des danses, mais c'est très étrange, peut-être est-ce une teinture d'adolescence, j'entends quelque chose d'un peu triste là derrière, j'entends un feu qui réchauffe pas complètement, j'entends quelque chose qui a un petit peu de mal. Et ce petit peu de mal fait de cette musique un bijou. Un bijou, oui. C'est très étrange, monsieur Ravel. C'est très, très étrange. C'est quelqu'un qui m'a touché longtemps, qui me touchera toujours, sans doute, que j'écoute moins. Mais c'est quelqu'un qui a prélevé quelque chose de mon cœur. Alors maintenant, c'est chez lui. Et je préfère que ce soit chez lui.
Mais à 12 ans, Christian Bobin, vous parliez de mélancolie, cette oui. fausse amie que vous avez su tenir à l'écart. Au contraire, est-ce que cette œuvre vous permettait de plonger dans ce que vous découvriez peut-être de la mélancolie ?
Elle consolait en aggravant. Ça fait souvent ça, la beauté. Elle consolait en aggravant. On sait que ce n'est pas le soleil qui va guérir de la mélancolie, c'est la lune. C'est la tristesse écrite sur une partition ou dans un poème, du fait d'être exprimée, va apaiser la vôtre. Et donc les langueurs, les hésitations célibataires d'un Maurice Ravel m'ont guéri, en tout cas ont adouci une incertitude quant à mon entrée dans le monde.
À quelle occasion avez-vous découvert ces tombeaux de Couperin ?
Ah, ça, je saurais, j'aurais du mal à le dire. C'est comme le regard d'une fille, un très beau regard qui ne vous est pas tout à fait adressé, que vous captez. Elle est dans un train, vous êtes sur la voie, vous êtes sur le chemin, et c'est un très beau visage là, et vous surprenez une tristesse qui ne vous est pas dédiée, dont vous n'êtes pas le roi, mais c'est très beau et c'est imprévu. Donc je ne sais pas vous dire quand ces notes me sont tombées sur le crâne.
En tout cas, vous les avez attrapées et vous les avez faites vôtres.
Thank you.
Edita Magaloff interprète cette polonaise numéro 6 en la bémol majeur opus 53, dite héroïque de Frédéric Chopin. Alors on entend la virtuosité nécessaire pour jouer cette pièce. Et puis il exprime, Chopin, à travers les polonaises et les mazurkas, un souvenir d'un pays perdu. Et il y a la nostalgie dont on parlait tout à l'heure, cette mélancolie qui est là à fleur de peau, Christian Bobin. Ces polonaises, vous les avez écoutées à quel moment de votre vie ?
Dans l'adolescence aussi, parce que c'est dans ce long, long, long couloir dont on n'imagine pas la fin, et dont les murs parfois se rétrécissent dangereusement. Dans l'adolescence. Ce qu'on vient d'entendre me touche parce que Chopin, il y a rien de mieux qu'un hypersensible pour être un guerrier. Il y a rien de mieux. Il y a rien de mieux qu'un homme arbre ou qu'un homme nuage pour déclencher la foudre, pour déclencher toutes les fureurs saines. Contre ceux qui empêchent de vivre. Et ce sont c'est une musique qui construit la personne qui l'écoute. C'est une musique, peut-être pour ça que ça m'a touché aussi dans cet âge où notre âme, notre cœur et notre corps ont tendance à s'éparpiller, ne savent plus trop bien se centrer, se recentrer et faire un. C'est peut-être pour ça que dans l'adolescence, j'ai aimé une musique comme ça qui rebâtissait l'argile que je suis, si vous voulez, qui le resserrait. C'est une musique... L'alliance est parfaite, c'est guerrier et doux. C'est parfait.
Vous avez grandi au Creusot, Christian Bobin, dans une famille modeste. Mmh. Est-ce qu'on écoutait de la musique chez vous ?
Un peu, avec à la radio, par exemple.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Donc à la radio, Christian Bobin, et vous parliez de ce long couloir de l'adolescence, ces mazurkas que vous avez écoutés, ce répertoire musical qui vous a construit, vous l'avez construit comment vous-même ? En allant acheter des disques, en parlant ? C'est solitaire comme aventure ?
Un peu la radio, un peu ce qu'on appelait jadis un tourne-disque, un peu, oui, un petit peu le hasard de Brick and Brock. C'est incroyable à quel point une vie se construit justement en bricolage. C'est incroyable à quel point l'essentiel nous arrive par imprévu. C'est comme si nous étions à nous-mêmes un puzzle dont on ne connaît pas le modèle et dont de temps en temps on découvre une partie et qu'on assemble, qu'on va accrocher un peu plus loin. Peut-être que l'image finale apparaît tout à la fin, peut-être, mais c'est incroyable à quel point nos amours dépendent d'un battement de cils, dépendent de rien. À la radio, je me souviens de la symphonie du Nouveau Monde, de Dvorak. Et pour moi, c'est lié à la punition d'être dans la chambre, dans le noir de la chambre, dans le noir sans étoile de la chambre, envoyé dormir sans manger, parce que j'avais fait une bêtise un peu trop grande. Et puis, de l'autre côté, dans la cuisine, à travers la paroi, j'entends cette symphonie du Nouveau Monde, qui est très prenante. Cette grande dame comme ça, qui vient me...
Consoler ?
Qui vient me consoler. Oui, c'est incroyable à quel point le meilleur vient par accident.
Et Chopin vous rend combattant, alors ?
Oui.
Thank you. interprète cet allegro de la sonate numéro 59 en mi bémol majeur de Joseph Haydn. On reconnaît évidemment Glenn Gould. Et c'est étonnant parce que Christian Bobin, souvent quand on nous dit Glenn Gould, on nous dit Bach. Et là, non, c'est Haydn.
Oui, c'était ma première découverte de son art. C'était à travers Haydn. Il y a des... D'ailleurs, on a pu en entendre un tout petit peu dans ce morceau. Il y a des surprises de silence chez lui très grandes. Et c'est ce qui me plaît. La musique, c'est une leçon de vie, comme l'écriture d'ailleurs. La musique vous apprend, sans phrase, à aller vers un chemin plus ouvert, plus respirant. À vous défaire aussi de vous-même, de l'habitude de vous-même. Et le jeu de Glenn Gould, qui est paradoxalement froid... est plein de, comment dirais, plein de surprises. Il y a une attention chez lui. C'est un des plus grands fauves de la musique. C'est quelqu'un qui bondit sur le moindre silence et qui provoque le silence à passer dans les partitions des plus grands de Bach et de Haydn. Il déforme presque la partition de Haydn en la jouant comme ça. De même que il va donner des ralentis à Jean-Sébastien Bach qui sont incroyables, incroyables. On dirait que la musique ne peut presque plus avancer. On dirait que tous les pneus sont crevés. Et puis ça repart. Ça repart de plus belle. C'est un grand couturier du silence, Glenn Gould. Et il me le fait entendre. Et pour moi, le silence, c'est le cœur du cœur de la musique. Et il le fait entendre très bien à l'intérieur, peut-être d'ailleurs, des musiques les plus conventionnalisées aujourd'hui, les plus respectées, c'est-à-dire les moins entendues. Tout d'un coup, cet homme, avec ses manies, avec son obsession, avec sa petite chaise, avec ses grommellements qu'on peut entendre dans le micro, cet homme relance tous les dés et tout d'un coup passe la main dans les cheveux de Haydn et fait tomber sa perruque. C'est superbe.
Comment vous avez appris à écouter la musique comme ça, Christian Bobin, tout seul dans votre coin ?
Par le cœur, par une avidité. Le mot avidité n'est pas heureux, mais par un appétit très puissant de vie, de quelque chose de... Je grandis dans une ville qui est cadenassée par son histoire. Une grande usine, du fer à l'intérieur, le travail, salarié. Et puis, beaucoup de silence, mais un silence pesant, très pesant. Et je repère ce qui fait éclater ce silence. Je repère... c'est comme de fixer une terrasse en plein soleil et tout d'un coup, vous voyez filer le lézard sur la terrasse. Et le lézard, c'est, par exemple, c'est ce jeu de Gould sur Haydn.
Thank you.
la suite anglaise numéro 6 en ré mineur dans son prélude de Jean-Sébastien Bach interprété par Gustav Leonhardt. Un peu pour vous provoquer, je dirais, Christian Bobin, parce qu'on évoquait tout à l'heure Glenn Gould interprétant Haydn. Et là, on entend Gustav Leonhardt interpréter Bach. Il y a quelque chose de beaucoup plus orthodoxe. On connaît l'interprétation de Bach qu'en a fait Gould. Et là, Gustav Leonhardt est au service des notes de Jean-Sébastien Bach.
C'est très bien, parce que ce qui est beau, c'est la variété et c'est la singularité de chacun. Glenn Gould est un peu comme un animal fou, comme ça, qui déboule dans la pièce et après c'est Gustav Leonhardt, c'est Louis XIV dans la même pièce, c'est superbe. Et Gustav Leonhardt, qui joue tellement corseté comme ça, qui joue, on dirait qu'on l'a coulé dans le ciment, eh bien, plus on entend le morceau vers la fin notamment, plus la jolie démence de Jean-Sébastien Bach le contamine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, peut-être parce qu'il fait une digue, la digue, on sait que les digues rameute toute la puissance de l'eau, elle l'invente. Eh bien, ce jeu, un peu compassé, apparemment, finalement aboutit à son contraire. J'ai eu tout d'un coup énormément de plaisir, notamment vers la fin, à écouter la frénésie qui sortait de ses mains si calmes.
Vous avez mis du temps, je crois, à apprécier Jean-Sébastien Bach, si j'en crois ce que vous nous avez dit en préparant l'émission. Mmh. Et pourtant, Bach est omniprésent dans votre dernier ouvrage, Pierre. Vous commencez d'ailleurs, première page, Bach apparaît, vous dites « Bach est plus que musicien ». À l'aune de ce qu'on vient d'entendre, que vous nous avez dit, qu'est-ce qui s'est passé entre cette première impression que Bach vous a fait et cette habitation, on pourrait dire, qu'a Bach en vous, cet habitat?
Ah oui, non, mais je suis hanté. Ce musicien, c'était pas mon genre. Je croyais que c'était pas mon genre. Mais vous savez, on fait du tort en voulant instruire parfois. On fait du tort en parlant trop calmement des choses et trop conventionnellement des choses et en se transformant en page de dictionnaire en disant Bach, c'est très important, c'est telle période, c'est le baroque, c'est ceci, c'est cela. Oui, mais oui. Mais le temps que l'interlocuteur ait fini sa phrase et je m'endors. Et je voyais les portraits en perruquet j'avais du mal avec le clavecin. Ce monde m'était interdit. Ce monde m'était complètement refusé. Qu'est-ce qui a fait que je suis entré dedans? Mon Dieu, je sais pas, mais quand j'y suis entré, je n'en sortirai, mais plus jamais. Je peux vous dire maintenant, je pourrais parler, ça c'est l'amour qui fait parler comme ça, parce que dans l'amour, vous pouvez nommer celle ou celui que vous aimez de 10 000 façons, et ça ne suffira jamais, jamais, jamais. Eh bien, voyez, ces notes de clavecin comme ça, moi je sais, les variations Goldberg par exemple, je sais qu'elles ont été écrites pour que la pluie soit moins seule. L'aria de la variation Goldberg, c'est ça. C'est pour que la pluie soit moins seule. Puis alors, avec méthode, en plus, c'est drôle parce que il correspond pas tout à fait à la joie qu'il me donne. Et ça me donne encore plus de joie, ce décalage. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sonate sur la table du dimanche, comme le poulet. Allez, allons-y. Et puis, parfois, il y a des sonates, des cantates tout le dimanche, une par dimanche. Et puis, parfois, il prend la cuisse de la cantate précédente pour la remettre dans la nouvelle. Parce que, bon, on peut pas toujours tout inventer. Mais c'est merveilleux. Ce désordre diamantaire, ce désordre de diamant, c'est la vie même. J'étais à la porte de ce palais, je ne savais pas y entrer.
Et c'est l'évocation de la nature. On entend le vent dans les arbres tout de suite. Vous dites, page 64 de Pierre, ta voix et ce bâton du promeneur qui écarte des feuilles sèches fait sortir deux notes de Bach d'un tronc d'arbre. On sent que Bach est là, partout.
Partout.
Le vent, ce vent qui semble être important, aussi important que de la musique, me permet aussi d'évoquer cette difficulté que vous évoquez dans Pierre de quitter votre chez-vous, ce besoin que vous avez d'être entouré de cette nature. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle construit ou déconstruit d'ailleurs?
C'est plus exactement ne pas quitter une pensée que j'ai, mais qui est sans mots, sans phrases, qu'on m'a mise au berceau et que je n'ai pas encore déchiffré complètement. Donc tout ce qui m'en distrait me navre, et le vent ne m'en distrait pas, et la musique de Bach ne m'en distrait pas, elle m'y ramène.
Et vous osez quitter votre chez-vous pour aller voir Pierre. D'ailleurs, dans un mouvement presque frénétique, je crois, vous lâchez tout et vous partez. Ça nous évoque aussi un peu la tempête. C'est une tempête qui se passe. Le Largo Allegro de la sonate pour piano numéro 17, Henri mineur, opus 31 de Beethoven, la sonate dite La Tempête, interprétée par Daniel Barenboim. Quand on demandait à Beethoven comment interpréter cette sonate, il disait « Lisez La Tempête de Shakespeare » pour donner des explications à cette œuvre. Pour évoquer avec vous, Christian Bobin, justement, cette présence de la nature, d'ailleurs cet essai, Pierre, qui ressemblerait à un mouvement de tempête. On vous sent partir, vous arracher de votre sol et aller à la rencontre de Pierre Soulages à 7 avec ce trajet qui n'en finit pas et qui vous fait voyager à travers beaucoup de monde.
À travers beaucoup de monde, oui. Mais c'est le mouvement même de l'écriture et de la vie. C'est une banalité que je dis là. C'est le voyage, c'est aller vers ce qu'on ne sait pas. C'est aller vers quelqu'un vers un visage qu'on aime, c'est aller vers une voie qui vous enrichit, et c'est traverser toutes sortes d'aventures pour... La vie la plus ordinaire, c'est une légende. Si on la regarde, si on sait la regarder, la vie la plus ordinaire est construite comme un conte de fées avec ses épreuves, avec ses répits, avec les dangers qui ont souvent un visage très souriant. C'est pareil d'ailleurs c'est la même chose au fond pour la musique. Ce qu'on écoutait là tout de suite de La Tempête, dans un sens ça n'en finit pas, mais ce n'en pas finir, c'est la vie même. C'est la vie même. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a des reprises de souffle, il y a des luttes. C'est une agonie et une joie perpétuelle.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Comment vous est venue l'idée d'écrire cet essai? On peut dire un essai, on ne sait pas très bien ce que c'est d'ailleurs, peu importe. Moi j'aurais envie de dire ce tableau, Christian Bobin, en hommage à Pierre Soulages.
J'ai pas pu faire autrement. J'ai fait ce voyage et ensuite, 15 jours après à peu près, est venue la nécessité de le raconter. De le décrire dans tous ses détails. Moi, j'ai obéi à ce livre. C'est pas moi qui l'ai fait, en fait. Le livre m'a été dicté, de même que le geste de prendre le train dans la nuit la plus désertique qui soit.
La plus noire, on a envie de dire.
La plus noire, oui, la plus noire. Celle de Noël. C'est très étrange, d'ailleurs, de traverser ce pays, la France, ce soir-là. Les trains sont très peu peuplés. Les maisons sont comme crispées sur leur jouissance et leur bruissement de papillotes. Vous êtes refusé partout et c'est une grande joie. Vous êtes refusé partout vous regardez par la vitre du train, vous êtes refusé. Cette joie qui est cette affirmation marchande d'un humanisme affirmé, volontaire, décrété, en vérité cache un très bel enfer. Et traverser l'enfer pour aller vers quelqu'un que l'on aime, c'est la vie.
Sanson François interprète la romance du concerto numéro 1 en mi mineur opus 11 de Frédéric Chopin avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Sanson François, qui est un interprète qui compte pour vous, Christian Vauban?
Ah oui, qui compte foncièrement. Dans ce que je viens d'entendre, j'entends tellement de choses. J'entends un Babil, j'entends un prince oriental. Je ressens, j'ai le toucher des pattes de velours d'un chat. Je vois un verre de whisky sur le laquais noir du piano. Je vois une cigarette aux lèvres de ce prince. J'entends des délicatesses qui ne sont ni masculines ni féminines, qui sont angéliques. Je suis forcé de les dire angéliques. J'entends... c'est un accompagnement de la vie la plus éphémère qui fait presque peur d'avoir à disparaître un jour, qui soulèverait le cœur tellement le cœur est comblé. Il ne lui reste plus du coup que cette peur-là, de ne plus l'être, parce que c'est le paradis, cette musique. Donc au paradis, vous ne désirez plus rien, mais vous craignez que là, d'entendre un bruit de porte et que quelqu'un vienne vous chercher, qu'on vous avait attribué une chambre par erreur. C'est Sanson François. Alors, l'amour, c'est toujours pareil. C'est une histoire, mais invraisemblable. Ça se fait sur des noms aussi. C'est beau, Sanson François. Sanson, c'est un nom biblique. Un prénom, mais un nom biblique. Et puis, je me souviens d'avoir vu sur les pochettes les grands vinyles de l'époque des années 60, le visage de cet homme avec une petite moustache, avec une grande mèche comme ça, avec un visage un petit peu argileux, un peu empâté. Et puis, je suis mais pauvre en musique, pauvre. Je sais, mettez-moi devant une partition et autant donner des petits cailloux à un moineau. Il saura pas quoi en faire. Mais je sais pas lire la musique. Je ne sais même pas la distinction entre une mélodie, ce que c'est qu'une mélodie exactement, ce que c'est qu'un rythme, ce que c'est. Mais par contre, je ressens, mais comme une brute, je ressens tout. Tout, absolument tout, et la première sensation de la mise en forme de la vie aérienne, qui est la vie qui est dans notre poitrine en vérité, elle a été faite pour moi, elle m'a été donnée par cet homme-là, par Sanson François. J'ai compris que c'était un homme qui aimait la vie de façon très très luxueuse, je veux dire très amoureuse. Parce que c'est le seul luxe vrai. J'ai compris que c'était un noctambule. J'ai compris que c'était quelqu'un qui ne cherchait pas à s'économiser, qui ne cherchait pas à vivre à tout prix, mais qui cherchait à vivre bellement. Et je connais la texture de ses doigts, alors que je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu un concert de lui. J'ai vu juste de maigres archives. J'ai vu son fantôme passer sur des archives. Mais c'est pas grand chose, ça. Mais je connais la texture de ses doigts. Je sais que ses doigts étaient légèrement boudinés et que j'entends à quel millimètre il s'arrête en appuyant sur la touche. Et je trouve que il magnifie même les grands maîtres, il les magnifie. Un Chopin, il l'emmène très très haut, plus loin que Chopin, plus loin que lui-même, plus loin que moi, plus loin que tout. Je suis, complètement malade et rassuré d'être malade par des gens comme ça.
Mais ce récit que vous faites de Sanson François, Christian Bobin nous renvoie forcément, en tout cas pour moi qui l'ai lu, à Pierre, parce que c'est par cette porte-là que vous nous emmenez découvrir Pierre Soulages, c'est par ce ressenti que vous avez de lui, par ce timbre de sa voix, par ce lien que l'on perçoit et qui est imperceptible et qui ne se nomme pas. Que l'on découvre ce peintre et qui nous renvoie à cette phrase hein, de Jean Grosjean que vous avez dite en début d'émission, c'est devenir un objet que d'être quelqu'un pour tout le monde. Vous cassez cette phrase, vous, à vous tout seul, dans cet essai.
Oui, il a été écrit pour ça.
Thank you.
les dissonances, interprète l'andante du quatuor à cordes numéro 2 de Leos Janáček. Les lettres intimes, qui est votre dernier coup de cœur, je crois, Christian Bobin, vous l'avez tout de suite reconnu. Donc en fait, vous écoutez quand même très attentivement. Vous écoutez à quel moment la musique? Entre le silence, le bruit des feuilles, l'écriture?
Souvent le soir, ou ça peut être le matin aussi, mais quand je l'écoute, je l'écoute, je fais que ça. Je n'écoute pas de musique en écrivant. Mais quand je l'écoute, je l'écoute comme on lit un livre. Comme on lit un livre dont on sait qu'il contient des pages qui ne nous décevront pas et qui, curieusement, bougent à chaque lecture. Ça, c'est une expérience que chaque lecteur peut faire. On ouvre un livre et il en va de même de la musique. Et on est touché par certaines pages, passe quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années, on rouvre le livre à la même page et la page sonne autrement. La page vous touche autrement, ou alors ne vous touche plus. Parce que le livre a changé, parce que vous avez changé. Et la musique, c'est au fond, il se passe le même phénomène. Je n'écoute jamais tout à fait la même chose quand j'écoute cette musique-là. Je l'écoute depuis quelque temps, et à chaque fois, j'entends des choses différentes. Elle me touche parce que elle s'appelle Lettres intimes de Janáček, et c'est dans la dernière année de sa vie, et c'est dédié à une jeune femme dont il était amoureux, et c'est sans doute la plus belle, la seule peut-être raison de faire quelque chose dans cette vie que d'être amoureux, de se mettre en mouvement et d'essayer d'extraire du chaos de cette vie et de nos sensations une œuvre. Cette œuvre peut être une parole, juste une parole, ou un geste. Et le travail de Janáček, ce qu'il a de beau, c'est que c'est une brute, cet homme. Il suffit de voir son image. Il a une tête, mais vraiment, il a une tête en pierre, il a une tête de marbre. Et dans son comportement, dans les biographies qu'on connaît de lui, il a une violence de sentiments et parfois de gestes et même une bêtise un petit peu parfois d'autorité, comme quelqu'un qui croit qu'il est un maître et qui du coup fait la preuve qu'il n'en est pas. Mais de cette approximation humaine sort ce bijou, sort cet éloge de l'amour, avec ce que l'amour a d'impossible à apprivoiser. Si on a entendu cette musique, on a entendu qu'elle était toute en rupture. Elle était toute en... La douceur vous est offerte, et puis le tapis vous est retiré de sous les pieds tout d'un coup, et puis ainsi de suite. Et j'aime ça parce que je redécouvre la trame de la vie même dans cette musique.
Comment je t'écris? J'enfonce ma tête dans le papier, je creuse une galerie. Quand je rencontre une racine ou un rocher, je fais demi-tour, je repars ailleurs, chercher l'issue à ce voyage, à cette nuit, à la vie entière. C'est ce que m'inspire ce que vous venez de dire, Christian Bobin, qui est extrait de Pierre, paru chez Gallimard tout récemment. On va se quitter, et j'avais envie de vous dire au revoir puisque Bach est si présent dans Pierre, ce duo magnifique du Magnificat de Bach, le duo contralto ténor Et Misericordia, pour vous dire au revoir et vous remercier encore d'être venu. J'avais envie de vous demander comment a accueilli Pierre Soulages votre essai.
Laissons ça dans le secret. Laissons ça dans le secret.
Merci beaucoup, Christian Bobin.
Merci à vous. Misericordia, misericordia, a progenie.
un extrait du Magnificat de Jean-Sébastien Bach pour terminer cette émission en compagnie de Christian Bobin qui était l'invité de Musique et moi ce matin. Je rappelle que Pierre a paru chez Gallimard et je vous invite vivement à lire cet essai. Merci à Olivier Dupré qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Clara Capdevielle. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.